Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal Nawel El Amouchi. La guerre se poursuit entre l'Iran et Israël. Un hôpital du sud d'Israël a notamment été touché. Le président américain Donald Trump a maintenu le doute sur d'éventuelles frappes américaines. Plus de précisions sur cette confrontation militaire dans notre journal. On reste au Proche-Orient, à Gaza. Au moins 18 personnes, dont 15, qui s'étaient rassemblées près d'un site de distribution d'aide, ont été tuées par des tirs israéliens dans le centre de l'enclave. Et enfin, dans l'actualité en France, quelques 4000 forces de l'ordre sont mobilisées aujourd'hui lors d'opérations de contrôle national contre l'immigration illégale dans les gares et les bus. Une annonce du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Nous l'avons évoqué dans les titres, pas de répit dans la guerre entre Israël et l'Iran. Le septième jour de ce conflit a débuté par un nouvel échange de frappes. Un hôpital a notamment été touché en Israël. Le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
L'Iran a tiré ce jeudi matin une nouvelle salve de missiles sur Israël. Un hôpital du sud du pays a été touché par un missile. C'est une première depuis le déclenchement du conflit. Des explosions ont été entendues à Jérusalem et Tel Aviv. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu que l'Iran paierait un prix lourd après cette frappe sur un hôpital. Le ministre israélien de la Défense affirme avoir ordonné à l'armée d'intensifier ses frappes sur l'Iran. Plus tôt ce jeudi, l'armée israélienne a mené des frappe en Iran, notamment à Téhéran. Elle a aussi appelé à évacuer les villages d'Arak et de Kondab, des villages situés près d'installations nucléaires. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, Israël a détruit ce mercredi deux bâtiments de production de centrifugeuses près de Téhéran. Et c'est dans ce contexte que le régime iranien a annoncé un durcissement des restrictions sur Internet. Téhéran affirme qu'Israël a détourné le réseau à des fins militaires. Depuis le début de la guerre, vendredi dernier, de nombreux sites internet et applications sont partiellement, voire totalement inaccessibles en Iran. Quant au président américain, il entretient le doute sur d'éventuelles frappes américaines. Je vais peut-être le faire, peut-être pas, selon les mots de Donald Trump, qui ajoute que Téhéran est entré en contact avec Washington pour négocier, mais que sa patience est, dit-il, déjà à bout. Donald Trump ajoute que la chute de l'actuel pouvoir iranien pourrait arriver.
Et sur le volet diplomatique, les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni envisagent une rencontre à Genève vendredi avec leur homologue iranien. La France, elle, appelle à la retenue au vu des risques pour la région. Et on écoute à ce sujet le Premier ministre François Bayrou.
Que fait la France? Vous le savez, à Gaza, elle dit vous ne devez pas aller plus loin, il faut rendre la liberté de circulation, il faut rendre la liberté d'approvisionnement à Gaza. Et en Iran, elle appelle, comme c'est diplomatiquement l'expression, à la retenue, en sachant très bien les risques immenses qui sont en train d'être courus par la paix du monde et dans cette région par une déstabilisation de très longue durée. La France défend ces principes-là en sachant très bien devant quel risque nous sommes, en mesurant ce risque et en décidant de joindre nos efforts, comme le président de la République le fait depuis des jours, à tous ceux des pays du monde qui souhaiteraient que l'équilibre et le calme reviennent. Voilà la politique française, elle respecte les principes, elle respecte les lois internationales, sauf pour ceux qui ont décidé, ou en tout cas, sans fermer les yeux sur ceux qui ont décidé, eux, de ne pas les respecter.
C'était François Bayrou, Premier ministre. Et pour Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de solution militaire au problème du nucléaire iranien. On l'écoute.
La France refuse, et depuis longtemps, que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire, ce qui soulèverait des risques insupportables pour Israël, pour la région, pour l'Europe, mais également et plus largement pour l'ordre international. Pour autant, la France considère, et depuis longtemps, qu'il n'y a pas de solution militaire au problème nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons aujourd'hui à la retenue, à la désescalade, à l'arrêt des frappes, et nous disons d'ailleurs que toute nouvelle frappe entraînerait, soulèverait des risques substantiels sans permettre pour autant d'éliminer définitivement le programme nucléaire iranien. C'est la raison pour laquelle nous appelons l'Iran à se rendre disponible immédiatement à la poursuite de négociations. Négociations auxquelles nous nous tenons prêts à participer puisque nous les avons conduits il y a 10 ans, que cela fait des mois que nous avons, avec les Britanniques et les Allemands, réamorcé ce travail à l'approche de l'expiration de l'accord sur le nucléaire iranien et que nous avons les idées très claires sur la manière d'obtenir des engagements de la part de l'Iran sur ce programme nucléaire. Ensuite, la France rejette ou dénonce l'attitude du régime iranien vis-à-vis de son propre peuple, vis-à-vis de la région et vis-à-vis de la France et de ses intérêts. C'est le programme nucléaire, le programme balistique que nous avons évoqué. C'est la livraison à la Russie de centaines de missiles, de milliers de drones dans la guerre d'agression contre l'Ukraine. C'est la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et c'est la détention arbitraire de Jacques Paris et Cécile Kohler, otages depuis 3 ans, otages d'État, comme vous l'avez dit. Pour autant, la France défend et promeut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et elle considère qu'on ne vient pas provoquer de changement de régime par la force, qu'il appartient au peuple de décider de leur propre destin et qu'elle fait confiance au peuple iranien pour décider du moment et des circonstances pour se libérer de ce régime contre lequel il a héroïquement résisté. C'est dans cet esprit-là que nous appelons les parties à la désescalade et au dialogue.
C'était Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Et on vient de l'apprendre, le chef de la diplomatie iranienne annonce sa participation à une réunion avec des ministres européens à Genève. Et sur le plan purement militaire, les frappes iraniennes ont donc touché plusieurs villes d'Israël, et cela malgré le dôme de fer israélien censé intercepter les missiles. Mais comment fonctionne-t-il? Nous avons posé la question au général Dominique Trinquant, ex-chef de la mission militaire française à l'ONU.
Le dôme de fer est efficace à 90%. Ça veut dire qu'il y a 10% de chances que des missiles passent. Il suffit de 2 ou 3 missiles avec 400 kilos de charge à l'intérieur pour faire des dégâts considérables. Donc les Israéliens le savaient, ils ont pris ce risque. Il est temps de penser qu'à la guerre, malheureusement, il n'y a pas de mort. C'est quelque chose qui n'existe pas. La guerre est quelque chose qui provoque des destructions, qui provoque des morts des deux côtés des antagonistes.
C'était le général Dominique Trinquant, ex-chef de la mission militaire française à l'ONU, au micro de François-Xavier de Calonne. Et on reste au Proche-Orient, à Gaza. Au moins 18 personnes, dont 15 qui s'étaient rassemblées près d'un site de distribution d'aide, ont été tuées par des tirs israéliens dans le centre de l'enclave. En France, quelques 4000 forces de l'ordre sont mobilisées aujourd'hui lors d'opérations de contrôle national contre l'immigration illégale dans les gares et les bus. Une annonce du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et dans un tout autre volet, dans l'affaire du petit Grégory, plus de 40 ans plus tard, la justice française a ordonné un nouvel interrogatoire de Jacqueline Jacob, la grande-tante de Grégory Villemain, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de l'enfant, retrouvé mort en 1984. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Jacqueline Jacob, 80 ans, est soupçonnée d'avoir rédigé une lettre anonyme adressée en 1983 aux parents de Grégory. Elle sera convoquée dans les prochains mois devant la cour d'appel de Dijon en vue d'une possible mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. En 2017, Jacqueline Jacob et son époux Marcel avaient été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort, mais les poursuites avaient été annulées pour vice de forme. Une expertise en graphologie l'avait désigné comme l'auteur d'une lettre anonyme. De nouvelles expertises ont été réalisées depuis. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a demandé à son président de procéder à l'interrogatoire de Jacqueline Jacob et d'envisager sa mise en examen. Le parquet général avait estimé que les éléments disponibles étaient insuffisants pour engager des poursuites. Grégory Villemain, âgé de 4 ans, a été retrouvé ligoté dans une rivière le 16 octobre 1984. Le jour même, une lettre anonyme signée par un corbeau revendiquait le crime. Bernard Laroche, cousin du père de Grégory, a été mis en cause sur la base des accusations de sa belle-sœur, une adolescente de 15 ans, qui est ensuite revenue sur ses déclarations. Il a été inculpé puis libéré avant d'être tué par Jean-Marie Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, en mars 1985. Christine Villemain, la mère, a également été poursuivie puis a bénéficié d'un non-lieu. La date de l'interrogatoire de Jacqueline Jacob n'a pas été précisée.
Et toujours en France, c'est une avancée qualifiée d'historique par le gouvernement. Le Sénat vient de voter une évolution majeure du droit pénal français, l'intégration explicite du non-consentement dans la définition du viol, une étape décisive vers ce que l'exécutif appelle une véritable culture du consentement. Les détails avec Nadia Bencher.
Mercredi soir, les sénateurs ont adopté à une très large majorité une proposition de loi transpartisane. Après le feu vert de l'Assemblée nationale en avril, le texte poursuit son chemin législatif. Il pourrait être définitivement adopté dans les semaines ou les mois à venir. Le principe est clair. Désormais, tout acte sexuel non consenti pourrait être qualifié d'agression sexuelle ou de viol, et ce, même sans violence physique ou menace. Une précision attendue de longue date, notamment depuis le procès très médiatisé des viols dits de Mazan. La ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, a salué un pas décisif, rappelant que le consentement, ce n'est pas dire non, mais dire oui, un oui clair, libre, sans ambiguïté. Le texte précise également que le silence ou l'absence de réaction d'une victime ne peuvent en aucun cas être interprétés comme un accord. Avec cette réforme, la France s'aligne sur d'autres pays européens comme la Suède, l'Espagne ou la Norvège, qui ont déjà fait du consentement la pierre angulaire de leur législation sur les violences sexuelles. Une réforme saluée malgré des débats parfois vifs. Certains juristes et associations craignent une inversion de la charge de la preuve ou une contractualisation des rapports intimes. Mais le consensus politique a fini par s'imposer et pour beaucoup, il s'agit d'un tournant majeur dans la lutte contre les violences sexuelles.
Et dans un tout autre volet, les maires n'ont jamais autant démissionné en France, avec près de 2200 démissions depuis le début du mandat actuel. On fait le point avec François-Xavier de Calonne.
Ce nombre, entre septembre 2020 et mars 2025, ce sont en moyenne 40 démissions par mois enregistrées, soit plus d'une démission par jour. C'est ce qu'indique une étude réalisée pour l'Association des maires de France. Alors question, pourquoi tant de maires jettent l'éponge? Eh bien, ces démissions sont surtout causées par des tensions politiques au sein des conseils municipaux. C'est la cause de 31% d'entre elles, loin devant les passations de pouvoir anticipées, les problèmes de santé, le cumul des mandats. La fatigue, les raisons personnelles ou professionnelles font aussi partie des causes de ces démissions. Alors, malgré leur forte exposition médiatique, les agressions d'élus jouent, selon cette étude, un rôle mineur. Si les communes de moins de 500 habitants plus nombreuses sont les plus touchées, avec 42% de maires démissionnaires depuis 2020, les communes de 1 000 à 3500 habitants enregistrent une vague de démissions sans précédent avec un quart des maires démissionnaires. Plus de la moitié des démissionnaires, 53%, sont des maires nouvellement élus. Les démissions touchent autant les hommes que les femmes, mais davantage les retraités, âgés de 65 à 74 ans. Il y a aussi une disparité selon les départements. Certains sont plus concernés par ces démissions de maires. Exemple, l'Isère, la Haute-Garonne, la Charente, l'Essonne, le Nord ou encore le Tarn-et-Garonne.
Et enfin, l'actualité football avec la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le club saoudien d'Al Hilal a créé la surprise hier en décrochant le nul face au Real Madrid. Et un autre club saoudien, celui d'Al Ain, s'est lui incliné 5-0 face à la Juventus de Turin. Le Wydad de Casablanca a été courageux face à Manchester City, mais ça n'a pas été suffisant. Les Marocains se sont inclinés 2-0. Et enfin, aujourd'hui, le club égyptien d'Al Ali ouvre la deuxième phase des poules. Coup d'envoi à 18h heure française face au club brésilien de Palmeiras. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous à 17h pour le journal. Très bonne suite des programmes sur Radio Orient.